Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Les Jeux méditerranéens d'Oran, l'Algérie avait besoin sur le plan international de montrer ce visage de pays accueillant, nous dira l'universitaire Georges Morin, le président de l'association Coup de Soleil et membre de la commission Mémoire et Vérité mise en place après la remise du rapport Stora, sera l'un de nos invités. Des feux de forêt ont fait 2 morts et plusieurs blessés en Algérie, c'est arrivé dans la région de Sétif. Face à l'inflation, le gouvernement propose de plafonner la hausse des loyers à 3,5% maximum pendant 1 an, un dispositif nommé bouclier loyer. Yann Brossa, maire adjoint de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés et porte-parole du Parti communiste, reproche au gouvernement de ne pas aborder le principal problème qui est la question des salaires. Nous l'écouterons. Les députés désigneront cet après-midi leur président, Yaël Braun-Pivet, candidate Ensemble et favorite pour être élue. Elle serait alors la première femme présidente de l'Assemblée nationale. L'invité de Pluriel hier soir était Sergio Coronado, l'ancien député écologiste qui vit à Marseille. Il est notamment revenu sur l'intérêt de l'exécutif pour la cité phocéenne, extrait dans votre journal. C'est l'un des plus grands événements sportifs organisés par l'Algérie depuis des années. L'Algérie accueille depuis samedi les 19e Jeux méditerranéens. 26 pays dont la France sont représentés. 3400 athlètes ont fait le déplacement. L'Algérie avait besoin, sur le plan international, de montrer ce visage de pays accueillant, nous dit l'universitaire Georges Morin. Entretien avec le président de l'association Coup de Soleil et membre de la commission Mémoire et Vérité, mise en place après la remise du rapport de l'historien Benjamin Stora. Morin.
Pour un pays de la Méditerranée, accueillir les Jeux méditerranéens, c'est important, et l'Algérie avait besoin aussi, sur le plan international, de montrer aussi ce visage d'un pays accueillant. Alors le sport, évidemment, on sait l'importance que ça revêt chez tous les Méditerranéens, quel que soit le sport pratiqué. Le fait d'arriver cette année, en plus l'année du 60e anniversaire de l'indépendance, que la deuxième ville d'Algérie, évidemment, s'ils avaient eu lieu à Constantine, vous me connaissez, je suis un Constantinois incorrigible, j'aurais été encore plus content, mais la deuxième ville d'Algérie, qui est Oran, qui est une ville que j'adore aussi, ça fait du bien à tout le monde. Alors en plus, si vous voulez, moi je suis un peu, on l'a vu, y compris lors des dernières élections françaises, à quel point les fractures, les conflits, les violences, le racisme sont toujours présents. Je parle de la France ici. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que, où que l'on soit, lorsqu'on ouvre une radio pour se plonger un peu dans l'actualité mondiale, on entend que des choses terribles, parce que les démocraties reculent, les violences se multiplient, les conflits, les migrations qui n'arrêtent pas. On l'a vu encore avec à la frontière de Ceuta et Melilla l'autre jour, encore il y a quelques jours. Quoi. Donc, voilà.
Vous nous dites qu'il s'agit d'un événement particulièrement important qui doit être mis en lumière à sa juste valeur.
Ce que je ressens, c'est que dans ce contexte tellement anxiogène, tellement négatif qui dans lequel se trouve l'ensemble de la Méditerranée, au nord comme au sud, pour ne pas dire le monde entier, mais restons dans notre Méditerranée, il y a tellement de choses négatives qui se passent dans tous les pays du nord et du sud. On sent la montée des extrémismes, on sent la montée des obscurantismes partout. Donc tout ça est extrêmement grave, et quand il se passe un événement aussi important que sont les Jeux méditerranéens, où on retrouve tous les peuples de la Méditerranée sur des valeurs, les valeurs du sport, qui sont des valeurs de combat dans le bon sens du terme, où on combat l'autre pour être meilleur que lui, honorer son pays, honorer ses camarades. Il y a une compétition, vers le bien.
Vous avez souligné que ces Jeux se déroulent à l'occasion, notamment, du 60e anniversaire bien de sûr. La proclamation de la fin de la guerre d'Algérie. Ce sera le 5 juillet prochain. C'est un élément important. Vous faites partie du groupe de travail avec l'historien Benjamin Stora, qui a remis son rapport sur la question mémorielle en janvier dernier à Emmanuel Macron. La question mémorielle, qui a été peu présente durant la dernière campagne présidentielle, elle l'avait été lors de la précédente campagne. Vous souhaitez que cela soit remis sur le devant de la scène aujourd'hui. C'est un élément important.
En tout cas, sur toute la France, c'est extrêmement important. Vous le savez, hein, il y a beaucoup de conférences, de cérémonies. Enfin, bon, évidemment, il y a eu les faits majeurs sur le plan mémoriel de l'honneur rendu à Maurice Audin et à Ali Boumendjel. Donc ça, c'est des choses extrêmement importantes. D'ailleurs, j'étais très content parce que coup de soleil, nous avions rendu hommage à Maurice Audin un an avant que la présidence de la République en fasse autant. Donc c'est une grande fierté. Mais voilà, il y a eu des gestes extrêmement importants. Il y a eu le j'étais à la cérémonie du pont de Beson le 17 octobre avec le président de la République et toute une délégation d'enfants, de victimes de la barbarie du préfet Papon et donc de l'État français au moment des manifestations d'octobre 61 à Paris. Donc voilà, tout ça, c'est des choses. Je veux dire, il y a une chose, vous voyez, je ne veux pas faire de politique politicienne, mais certains admirent le président Macron, certains le détestent. On peut en penser ce que l'on veut, dans un pays libre, on pense ce que l'on veut de nos dirigeants. Mais je le défends bec et ongles. Je n'ai pas que des. Encore une fois, j'ai aussi beaucoup de reproches à lui faire ou beaucoup de choses que j'approuve. Mais surtout, je dis que sur l'Algérie, il est impeccable. Même si parfois il a aussi commis des erreurs ou des maladresses, mais on sent une grande sincérité chez lui. Macron, il était candidat à la présidence de la République, il est allé à Alger, il a parlé de crime d'État en parlant de la colonisation. Donc c'était déjà une preuve extrêmement importante. Et je pense qu'il n'a jamais dévié cette voie. Et que, pour le dire, encore une fois, grâce à lui, c'est le seul président qui soit autant investi. Dieu sait si, évidemment, Jacques Chirac était investi, Mitterrand était investi en raison de leur histoire personnelle. Mais là, Macron, qui n'a jamais connu la guerre d'Algérie, il était trop jeune, eh bien voilà, il a été, à mon sens, l'un des présidents qui ont le plus fait pour essayer de réconcilier ce qui est absolument fondamental pour l'Algérie, pour la France, pour la Méditerranée et pour toutes nos civilisations autour de cette grande mer. C'est un secteur sur lequel moi je le défendrai bec et ongles.
Et ce type de geste doit se poursuivre durant ce nouveau quinquennat, c'est ce que vous dites
aussi. Bien sûr, il y aura mille occasions. Pardonnez-moi, mais on est bientôt, moi je suis j'en tremble rien que d'en reparler. On est bientôt le 30 juin. Le 30 juin, c'est l'assassinat de Mohamed Boudiaf, qui a été un événement terrible. Et là, malheureusement, on n'entend pas beaucoup parler. Moi, je sais que j'ai eu le privilège, j'étais à l'époque directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Louis Mermaz, qui est parti à Alger avec moi. On est partis tous les deux. Il n'y avait aucun autre responsable avec lui que moi-même. Il m'a amené parce que justement, il connaît mais mon amour pour mon pays natal qui est l'Algérie. On a rencontré le président Boudiaf le 4 juin 1992 à Alger, et le 30 juin, Mohamed Boudiaf était assassiné, qui a été un tel espoir pour les Algériens, et j'ai accompagné Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères, à ses obsèques le 2 juillet, je crois, de 1992. J'en suis encore bouleversé quand on a vu ces millions et ces millions d'Algériens qui étaient au fond du désespoir. C'était vraiment, on avait le sentiment que l'Algérie ne pouvait plus rien attendre, plus rien. Bon, et puis ben finalement, voilà, l'Algérie a quand même, malgré toutes les difficultés que l'on connaît, elle a repris du poil de la bête, parce que c'est un pays qui est immense et qui est un pays, un peuple qui a tellement souffert et qui a toujours su garder la tête hors de l'eau. Voilà, c'est un. Pour moi, j'espère qu'il y aura, et en Algérie et en France, beaucoup de manifestations, enfin aussi de commémorations de la mort de ce grand homme qui a été le président Mohamed Boudiaf.
L'universitaire Georges Morin, président de l'association Coup de Soleil et membre de la commission Mémoire et Vérité. Des feux de forêt ont fait 2 morts et plusieurs blessés en Algérie. C'est arrivé dans la région de Sétif, région déjà frappée par des incendies meurtriers. Le feu s'est déclaré sur des terres agricoles. Il s'est rapidement propagé aux vergers et aux alentours des maisons à cause du vent et de la chaleur. La tentative de passage en force meurtrière vendredi dernier dans l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc. La justice marocaine a décidé de poursuivre 65 migrants, en majorité des Soudanais, pour avoir participé à cette tentative. Ces personnes faisaient partie des près de 2000 migrants qui ont tenté de pénétrer dans la cité autonome espagnole de Melilla, située en territoire marocain. Au moins 23 personnes ont été tuées selon les autorités autorités locales marocaines, 37 selon les ONG. Une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue demain sur ce drame. L'ancien Premier ministre tunisien Hamadi Jebali a été remis en liberté. Il avait été arrêté jeudi dernier sur des accusations de blanchiment d'argent. Ancien dirigeant d'Ennahda, Hamadi Jebali avait entamé une grève de la faim après son arrestation. Un dirigeant d'Al-Qaïda a été tué dans une frappe aérienne américaine en Syrie, une frappe dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. C'est la seconde opération américaine menée contre des djihadistes en Syrie en moins d'un mois. Un bombardement russe a fait au moins 18 morts hier dans un centre commercial en Ukraine, une frappe qui a provoqué une vive condamnation des pays du G7 réunis en Allemagne. Ils ont dénoncé un crime de guerre. Les députés français désigneront cet après-midi leur président, Yael Braun-Pivet, candidate Ensemble et favorite pour être élue. Elle deviendrait ainsi la première femme présidente de l'Assemblée nationale et succéderait à Richard Ferrand qui n'a pas été réélu aux dernières élections législatives. Ces mesures prises par le gouvernement en matière de pouvoir d'achat sont très insuffisantes. Le gouvernement n'aborde pas le principal problème qui est la question des salaires. Propos signé Yann Brossa, maire adjoint de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés et porte-parole du Parti communiste. Il s'exprime après l'annonce du gouvernement qui entend plafonner la hausse des loyers à 3,5% maximum pendant un an, un dispositif nommé bouclier loyer. Yann Brossa.
Ce bouclier est très largement percé. Le gouvernement parle d'un bouclier loyer. La réalité, c'est qu'il permet aux propriétaires d'augmenter les loyers de 3,5%. 3,5% d'augmentation de loyer, c'est considérable. Et on a des gens qui sont déjà pris à la gorge par l'augmentation des prix dans tous les domaines. Et en plus de cela, ils vont voir leur loyer augmenter de 3,5% si le propriétaire va jusqu'au maximum autorisé. Et donc, c'est une décision qui, de mon point de vue, n'est pas bonne du tout. Le gouvernement aurait pu limiter bien davantage la hausse. Ça n'est pas le choix qu'il a fait, sous la pression d'un certain nombre de lobbies. Et je le regrette.
Plus globalement, quel regard portez-vous sur le projet de loi pouvoir d'achat qui doit être voté cet été par le Parlement ?
De ce qu'on en sait pour l'instant, ces mesures prises par le gouvernement en matière de pouvoir d'achat sont très très insuffisantes. On a une inflation qui pourrait dépasser les 6%, on a une explosion des prix de l'alimentation, une explosion des prix de l'énergie, et pour l'instant, on a des propositions qui sont très en deçà de ceux dont nous aurions besoin. Et puis surtout, le gouvernement n'aborde pas le principal problème, qui est la question des salaires, qui est la nécessité de mieux rémunérer le travail. Si on n'augmente pas les salaires, si on ne permet pas d'augmenter les revenus des familles, inévitablement, on aura un pouvoir d'achat qui va décliner, a fortiori dans un contexte d'inflation.
Le gouvernement qui entend revaloriser les aides personnalisées au logement, les APL, de 3,5% au 1er juillet prochain, c'est insuffisant pour vous ?
Oui, c'est très insuffisant. L'augmentation de l'APL qui est annoncée à grand renfort de communication par le gouvernement, c'est 168 millions d'euros. Dans les 5 dernières années, le gouvernement a baissé les APL de 15 milliards d'euros. Autrement dit, avec le gouvernement, la recette est simple, je te prends 100, je te rends 1 et je te demande en plus de dire merci. Tout ça est quand même un peu hallucinant. La réalité, c'est que le gouvernement a énormément baissé les APL. Il en rend un petit bout aujourd'hui, mais tout cela est loin de faire la maille.
On l'entend, vous soutenez les différentes associations qui appellent notamment à geler les loyers. C'est une mesure indispensable pour vous aujourd'hui face à l'inflation ?
Oui, je pense qu'on aurait aujourd'hui besoin de geler les loyers. Dans le parc social, il faudrait qu'il y ait une compensation de la part de l'État. Mais dans le parc privé, bien sûr, cela pourrait se faire. Il n'y a aucune raison que les loyers augmentent de manière exponentielle, comme le prévoit le gouvernement, avec cette augmentation permise de 3,5%, ce qui est considérable pour des familles qui ont des petits revenus.
L'encadrement des loyers pourrait-il constituer une forme de levier ?
Oui, bien sûr, on a besoin d'encadrer les loyers. On voit bien qu'aujourd'hui, si on laisse faire le marché, on a des prix qui sont totalement incompatibles avec les revenus des ménages. On le voit dans toutes nos grandes métropoles, dans celles où le marché du logement est tendu. C'est la raison pour laquelle à Paris, nous nous sommes battus pour mettre en place l'encadrement des loyers. C'est le cas depuis 2 ans. Et c'est ce qui nous a d'ailleurs permis un assagissement du niveau des loyers. Néanmoins, j'alerte sur un point, c'est que si on veut que l'encadrement des loyers fonctionne, il faut des contrôles et il faut des sanctions lorsque les propriétaires ne respectent pas l'encadrement des loyers. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je me suis battu pour que Paris, la ville de Paris, récupère la compétence de contrôle et de sanction. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était le préfet qui était censé prononcer des sanctions et il en prononçait trop peu. Et à partir de l'automne, c'est la ville de Paris qui pourra effectuer ces contrôles. Ça me paraît indispensable parce que pour qu'une loi soit respectée, il faut des contrôles et il faut des sanctions pour ceux qui ne la respectent pas.
Aujourd'hui, cette loi n'est pour le moment pas suffisamment respectée. Vous voyez beaucoup de logements qui sont au-dessus des barèmes fixés.
Très concrètement, à Paris aujourd'hui, un tiers des propriétaires ne respectent pas l'encadrement des loyers. C'est mieux que l'an dernier où il y en avait encore davantage, mais ça reste trop et ça concerne notamment les petites surfaces, celles qui sont occupées par les familles qui ont les plus petits revenus. Donc c'est extrêmement injuste et c'est la raison pour laquelle il nous paraît indispensable de serrer la vis et de sanctionner les propriétaires qui ne respectent pas l'encadrement des loyers. Lorsque vous êtes automobiliste et que vous dépassez les vitesses autorisées sur l'autoroute, vous avez une amende. Ben, ça doit être exactement la même chose lorsque vous êtes propriétaire et que vous enfreignez la loi sur l'encadrement des loyers.
Yann Brossa, maire adjoint de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés et porte-parole du Parti communiste. Les salaires des fonctionnaires augmenteront de 3,5% le 1er juillet prochain, une annonce du ministère de la Transformation et de la Fonction publique. Il s'agit de la première revalorisation du point d'indice de la fonction publique depuis 2017. L'invité de Pluriel hier soir était Sergio Coronado, l'ancien député écologiste qui vit à Marseille et notamment revenu sur l'intérêt de l'exécutif pour la cité phocéenne. Extrait.
Il s'y intéresse parce que je pense qu'il a un attachement à cette ville et je peux le comprendre, c'est une ville extrêmement attachante. C'est une ville qui subit un retard considérable dû à 30 ans de politique de droite extrêmement immobile, en fait inerte et un peu irresponsable, pour ne pas dire totalement irresponsable. Retard sur les transports collectifs, une situation du logement et du logement insalubre. Peu de villes en France, si ce n'est la seule, en fait, connaissent. C'est une ville pauvre avec des inégalités extrêmement fortes. C'est une ville qui est confrontée, en fait, aux enjeux à la fois de réparation sur les écoles, une honte, pas simplement pour les enfants de Marseille, mais pour l'ensemble de la République et la situation, comme je l'ai dit, de l'habitat indigne avec cette prise de conscience au moment de l'effondrement tragique rue d'Aubagne qui a fait plusieurs morts. Voilà, c'est un contexte un peu sombre en fait. Et puis c'est une ville qui change, qui bouge, il y a de nouvelles arrivées, c'est une ville qui s'invente aussi avec des forces vives, des collectifs, des associations, des expérimentations sociales alternatives. C'est une ville qui vient d'être lauréate de la mission européenne pour les 100 villes décarbonées à l'horizon 2030. Donc elle va bénéficier de fonds européens pour mener à bien la transition écologique. Et je pense que le choix fait par la Commission est assez audacieux. Quand vous regardez les villes françaises qui ont été choisies, Marseille est un peu à part en fait, parce qu'on a choisi des villes comme Paris, Grenoble, enfin, des villes très avancées en fait, dans l'aménagement urbain, dans les transports collectifs, dans les déplacements doux, la transformation de l'appareil municipal, les alternatives énergétiques, en fait. Et je crois que Marseille a ce défi-là à relever, en fait, celui de la réparation, mais également celui de l'invention de la ville de demain. Et donc Emmanuel Macron s'intéresse à Marseille. Il s'y intéresse peut-être aussi pour mener à bien des expérimentations qui, pour l'heure, à mon sens, n'ont pas ni l'aval de la majorité municipale, ni du corps enseignant. Rappelez-vous, il a souvent parlé et son ancien ministre de l'Éducation le faisait régulièrement sur une expérimentation dans les écoles marseillaises. En fait, voilà, c'est un intérêt que moi je trouve normal, un président de la République qui prend conscience en fait, du retard de cette ville, dû notamment à l'absence de soutien de l'État, contrairement à d'autres villes et notamment à la capitale. Et je crois qu'en termes de réparation, c'est aussi comme ça qu'il faut fonctionner, quand l'État a failli ou l'État a fait défaut. Il est normal en fait, que l'État revienne un peu au-devant de la scène et se tiennent aux côtés des villes qui en ont besoin, en fait. Et Marseille en a besoin.
Sergio Coronado avec Les Cigales en fond sonore, l'ancien député écologiste qui était l'invité de Pluriel hier soir, émission disponible sur votre site internet radioorient.com. L'invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h sera François Piquemal, député de la NUP, membre du groupe La France Insoumise, élu à Toulouse, émission présentée par Loïc Barrière. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h19.